Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Steve Rivière. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
On va voir un message qui est crucial. On est tous confrontés à ça. Le titre ce soir, c'est « Triompher de l'incrédulité ». On est tous confronté malheureusement à ce fléau qu'est l'incrédulité. Vous savez, dans Matthieu 17, on va lire une histoire qui montre que les disciples de Jésus eux-mêmes devaient lutter contre ce fléau qu'est l'incrédulité. Dans Matthieu 17, verset 14, il est écrit, je peux mettre sur les écrans s'il vous plaît, « Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?» Jésus répond, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous dis la vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, c'est un petit grain de moutarde, c'est très petit, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi de là, et le piton des neiges, je transporterai de là. » Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Waouh. Il faut comprendre ici que les disciples ont reçu l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Ils ont été envoyés deux par deux pour chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ils ont bouleversé des villages et des villes. Mais là, il tombe sur un os, comme on dit. Il y a une situation qui n'arrive pas à avoir le succès, en tout cas triompher de cette situation. Et il y a un démon qui n'arrive pas à chasser. Et ici, Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Comprenez bien qu'ils viennent faire un paquet de miracles. Comprenez bien qu'ils viennent avoir un paquet de succès dans la puissance. Et là, ils arrivent et ce démon-là reste là. Ce que j'aime avec Jésus, c'est que Jésus ne dit pas « Oh, vous avez été présomptueux » ou Jésus ne dit pas « Pourquoi vous avez essayé cette fois ?» Jésus ne les reproche pas d'avoir essayé. Jésus ne les reproche pas de vouloir détruire les œuvres du mal. Ce que Jésus leur reproche, c'est leur incrédulité. Et l'incrédulité met Jésus dans une sainte colère. Pourquoi ? Parce qu'il sait que l'incrédulité nous fait du mal à nous. L'incrédulité nous fait du mal à nous. Et Jésus ici leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Il donne la raison du manque de percée. Je me suis dit, waouh ! Les disciples marchaient avec Jésus. Jésus a donné la puissance pour manifester dans les villages. Et ils sont arrivés, ils ont dit, les démons nous ont soumis, c'est top. Et là, ils sont dans une situation où il y a un souci. Et Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. L'incrédulité est un véritable fléau. Et on est tous confrontés à ce problème. L'incrédulité est totalement démoniaque. Les disciples, franchement, quand je lis les évangiles, je me dis, Seigneur, il ne choisit pas de superstars. Il ne choisit pas des gens de grande capacité. Les disciples étaient normaux comme vous et moi. Les disciples, malheureusement, avaient ce problème d'incrédulité. Là, ils sont confrontés à un problème, mais pas que ça. Il faut réaliser que Pierre, Jacques et Jean ont vu Jésus transfiguré. Il faut réaliser que Pierre, Jacques et Jean ont vu Jésus ressusciter des morts et même les autres disciples. Ils ont vu Jésus faire des choses extraordinaires. Pierre, Jacques et Jean ont vu Moïse et Élie dans la gloire parler avec Jésus. Ça faisait un moment qu'ils n'étaient plus sur terre. Jésus, dans les évangiles, n'a cessé d'annoncer à ses disciples qu'il allait mourir pour les sauver. Et le jour où Jésus est mort, personne ne l'a cru. Il a dit qu'il allait mourir et ressusciter. Mais les disciples étaient tellement en proie à l'incrédulité qu'ils ne croyaient pas. Ils étaient déçus, ils ne savaient plus quoi faire. Pourtant, le nombre de fois que Jésus leur avait prévenu, Jésus ne leur avait pas caché, mais ils n'arrivaient pas à recevoir cette vérité. Ils étaient incrédules. Et le jour de la résurrection, deux femmes vont au tombeau. Mais elles vont au tombeau, ces deux femmes, non pas parce qu'il est ressuscité, mais elles vont au tombeau parce qu'elles voulaient parfumer le corps. Elles ne s'attendaient pas à le voir ressuscité. Et elles se disaient entre elles, mais qui va rouler la pierre pour nous? Et quand elles arrivent, elles voient la pierre rouler. Elles se disent, il y a un souci. Il y a un problème. Et là, bien sûr, comme vous savez, Jésus leur apparaît, et elles sont donc choquées, elles vont annoncer aux disciples, et Pierre et Jean ne croient pas tout de suite, ils disent, il faut qu'on aille voir, on va courir pour voir si c'est vrai, parce qu'ils étaient en proie à l'incrédulité, et quand ils arrivent, c'est là qu'ils croient, et à leur tour, ils vont dire à tous les disciples, mais beaucoup ne croyaient pas, tant qu'à Thomas, lui, coco le plus dur. Lui dit, si je ne vois pas les plaies, moi, je ne mets pas ma main dedans. Si je ne mets pas ma main dedans, etc., je ne croirai pas. Et Jésus leur reproche aussi, le jour de sa résurrection, leur incrédulité. Il leur dit, mais qu'est-ce que votre cœur est lent à croire? On parle ici des apôtres qui ont marché 3 ans avec Jésus. On parle ici de ceux qui ont vu la puissance et qui ont été utilisés par Dieu. Et malgré tout, Jésus leur disait des fois, vous êtes trop incrédules. Quand je vous dis que ça concerne tout le monde, vous me comprenez mieux maintenant, je pense. Si quelqu'un dit, moi je ne suis pas incrédule, à mon avis, c'est de l'incrédulité. Mais l'incrédulité est réellement un fléau qu'il nous faut impérativement. C'est crucial, c'est vital pour toi et pour moi. C'est primordial de dealer, de lutter, de confronter l'incrédulité. Parce que si l'incrédulité reste, l'incrédulité peut tuer la promesse que Dieu t'a faite. L'incrédulité a fait beaucoup de victimes. Le peuple d'Israël qui marchait vers la terre promise, toute une génération est morte dans le désert à cause de leur incrédulité, nous dit la parole de Dieu. Dans Hébreux 3, verset 19, il est écrit, « Aussi voyons-nous qu'ils ne purent entrer à cause de leur incrédulité. » Waouh ! Le peuple de Dieu n'a pas reçu sa promesse à cause de l'incrédulité. L'incrédulité est démoniaque. On ne peut pas être ami avec l'incrédulité. Et ce soir, le message de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est ne tolère pas l'incrédulité dans ta vie. Chasse l'incrédulité. Fais tout ce que tu peux. Parce que l'incrédulité a pour objectif de te tuer. L'incrédulité a pour objectif de t'enlever les promesses que Dieu t'a données. L'incrédulité a pour objectif d'étouffer ta foi. L'incrédulité, et c'est elle qui empêche la puissance de se manifester. Quand Jésus est venu à Nazareth, le village où il avait grandi, la Bible dit qu'il n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité des gens de Nazareth, parce qu'ils le connaissaient comme le fils du charpentier. L'incrédulité, on ne peut pas la tolérer. Il faut s'en défaire. Si tu veux une vie épanouie en Jésus-Christ, ne tolère pas l'incrédulité. Et ce soir, en quelques points rapides, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble quelques principes primordiaux pour triompher de l'incrédulité. Vous êtes prêts ? Premier principe, c'est Jésus qui l'enseigne dans le passage qu'on a lu. Il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Waouh ! Jésus est en train de leur dire, écoutez, il y a un rang de démons là, vous avez affaire à un boss. Satan, c'est un royaume qu'il gère. Dans tout royaume, il y a des rangs d'autorité. Quand Jésus lui-même dit qu'on expulse des démons, si la personne n'a pas Christ, les démons vont chercher 7 démons plus forts qu'eux. C'est-à-dire, ils n'ont pas tous la même force. Les démons qui tourmentent un peu, ils font l'air intéressant et tu les chasses facilement. Il y en a d'autres qui vont te dire, viens me sortir de là si tu peux. Comme ça. Et le seul moyen pour chacun d'entre nous de les sortir, Jésus dit, c'est par la prière et par le jeûne. Non pas parce que le démon est fort. C'est pas le démon ici dans l'enfant qui était fort. C'était le manque de foi et de puissance des apôtres qui faisait défaut. Le jeûne et la prière augmentent la foi et la puissance. Et enlèvent l'incrédulité qui nous voile la face. La Bible dit dans 1 Corinthiens, verset 13 il me semble, que le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé leur cœur incrédule. Donc, la raison peut voiler, les émotions peuvent voiler et rendre le cœur incrédule. Les circonstances peuvent rendre le cœur incrédule. Et Jésus dit, cela signifie que si aujourd'hui, tu comprends ce soir que tu y a des percées dans ta vie que tu n'as pas, peut-être c'est parce que il faut que tu persévères dans la prière et dans le jeûne. Ce n'est pas parce que l'ennemi est fort. C'est parce que peut-être que nous n'avons pas encore pris conscience de la plénitude de notre autorité. Peut-être que nous n'avons pas encore pris conscience qui nous sommes en lui. Parce qu'on est aveuglé dans notre intelligence. Et l'incrédulité, comme chez les disciples, fait qu'on croit par la puissance de la résurrection. Pourtant, ces disciples ont vu Jésus ressusciter des morts. Pourtant, ils ont eux-mêmes ressuscité des morts. Et cette fois-ci, ils ne croient pas. C'est un fléau que l'ennemi envoie pour paralyser la puissance dans l'Église. Pour que toi et moi, on ne puisse pas avoir la percée que Dieu veut qu'on ait. Et Jésus nous dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. C'est pour ça que j'encourage le précieux peuple de Dieu que vous êtes à comprendre que la prière, le premier qui en bénéficie, c'est toi. Je disais aux frères et sœurs qui viennent prier le matin, je vous encourage à persévérer. Car à un moment donné, je ne sais pas si c'est dedans une semaine, des semaines, un mois, des mois, un an, des années, mais à un moment donné, il y aura une percée. Il y aura une percée comme jamais, jamais, jamais auparavant. Et ceux qui croient, j'encourage constamment à prier sans cesse. Mais le jour où l'incrédulité va être dégrafée, je ne sais pas si ça se dit. Ça se dit ça ? On ne se dit pas. C'est créole ça ? On va dire quand même. C'est français ? C'est super. Et le jour où l'incrédulité va être dégrafée, de ton cœur, de mon cœur, totalement. Cela signifie que le niveau de puissance, Jérémy, tu peux monter s'il te plaît. Cela signifie que le niveau de puissance va être extraordinaire. Extraordinaire. Le manque de percée, c'est parce que ne persévère pas dans la prière. Et ce n'est pas bon. C'est pas ce que Dieu veut. Vous savez que la Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et ce soir, j'aimerais vous encourager que nous puissions nous encourager les uns les autres dans la foi à comprendre que le combat du chrétien, c'est le combat de la foi. Lorsque la foi est manifeste, elle détruit le royaume des ténèbres. C'est pour ça que Satan n'aime pas la foi. Il sait que si un chrétien deal et gère, confronte l'incrédulité, sa foi va devenir exponentielle. Et la manifestation de sa foi va détruire les œuvres de l'ennemi. Va amener percée sur percée, victoire sur victoire. Mais c'est ce que Dieu veut pour toi et moi. Mais quelle est notre constance dans la prière? Fais-tu du jeûne un style de vie? Es-tu comme cette veuve qui titille, qui importune le juge inique pour qu'il lui fasse justice dans la parole de Dieu? Et Dieu dit à propos de cette veuve, cette parabole, cet exemple, que si mon peuple demande justice à mon Père, il le fera promptement justice. Mais notre incrédulité fait qu'on ne croit même pas en ça. Si on croyait, la foi sans les œuvres est morte. Si on croyait, la foi vivante nous pousserait à l'action. Et l'église serait pleine tous les matins dans la prière. Parce que chacun serait à l'affût pour aller chercher sa victoire. Parce que personne ne veut rester mourir dans le désert. À cause de l'incrédulité. Je l'espère. Vous savez, le désert est l'endroit où Dieu teste notre foi. Quand le peuple en Égypte a quitté le désert, a quitté l'Égypte pour passer au travers du désert pour aller dans la terre promise, Dieu voulait tester sa foi. Dieu allait le mettre dans un environnement difficile. Dieu allait le mettre dans un environnement où il n'allait pas avoir trop d'options. Pas trop d'options dans le désert. Dieu voulait le mettre dans un environnement où il serait obligé de dépendre de Dieu parce que Dieu serait sa seule option. Et le désert, en réalité, était un training. Le désert était une bonne chose avant qu'ils arrivent dans la terre promise. Le désert était un test. Parce que le désert n'a pas que des mauvais côtés. Le désert était le lieu où le surnaturel, où le miraculeux de Dieu allait constamment se manifester et se manifester pour le peuple. Le désert, quand le peuple marchait dans le désert, la journée, il y avait une colonne de nuées qui les protégeait de la chaleur. C'était Dieu devant eux. La nuit, il y avait une colonne de feu qui les protégeait du froid. C'était Dieu devant eux. Ils avaient des vêtements sur eux qui grandissaient avec eux. Imaginez, aucun couturier n'est capable de faire ça. Des paires de chaussures qui ne s'usaient pas pendant 40 ans. Dieu prenait miraculeusement soin d'eux dans le désert. Parce que Dieu était leur seule option. Dans le désert, ils avaient la manne, qui était le pain de vie. Parce que Dieu voulait qu'ils comprennent que quand tu n'as plus d'option, alors tu dois développer une habitude où tu fais de Dieu ta source. C'était ça le passage du désert, entre autres, pour eux. La Bible dit dans Deutéronome, chapitre 8, verset 3, il t'a humilié et t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu et que n'avaient pas connu tes pères, afin d'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. C'était l'apprentissage. L'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. L'homme vit de la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la bouche de Dieu. Pour paraphraser. La foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on a entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Entendre Dieu. Mais l'incrédulité s'oppose à la foi. Et le désert, en réalité, si aujourd'hui tu es dans une situation difficile où tu as très peu d'options, c'est peut-être que Dieu veut que tu apprennes à faire de lui ta source. Et qu'il veut te transporter dans le miraculeux. Mais pour ça, il faut que tu apprennes à te nourrir de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole de Dieu sort dans la présence de Dieu. Ça, c'est important. Dans la prière, dans le jeûne, dans l'intimité. Pourquoi cela est si important, le désert? Le but de Dieu n'était pas de les garder dans le désert. Le but de Dieu était de les conduire dans la terre promise, là où il y a l'abondance naturelle, pas surnaturelle. Là où l'abondance naturelle abonde. Mais Dieu voulait qu'ils comprennent que lorsqu'ils allaient profiter de cette abondance naturelle, que jamais ils oublient que Dieu est quand même leur source. Quand ils allaient remporter de grandes victoires sur l'armée ennemie, quand ils allaient planter et avoir des idées pour l'irrigation ou autre, il voulait qu'ils se souviennent que même leur victoire ou leur réussite ne dépend pas de leur capacité intellectuelle ou physique, mais de Dieu. Parce qu'ils ont vu, lorsqu'ils manquaient de tout, que Dieu était leur source. Ils devaient apprendre quand ils allaient être dans l'abondance, que Dieu restait quand même leur source. Ils devaient apprendre, même dans l'abondance, à entendre Dieu parler, à avoir la foi. C'est ce que Dieu voulait pour eux. S'ils avaient une promotion, ils doivent réaliser que la promotion vient de la grâce de Dieu. C'est ce que Dieu voulait. Mais pour ça, ils devaient aimer sa voix. Pour ça, ils devaient aimer sa présence. Et Dieu voulait qu'ils apprennent à chérir l'intimité avec lui. Seul Moïse avait compris cela. Josué, Caleb avait compris cela. C'est de leur apprentissage. La parole de Dieu dit, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. C'est ce que Dieu voulait qu'ils apprennent. Que quand ils allaient être dans l'abondance, malgré tout, la victoire dépend de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont passés par le désert. Le gros problème, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Ils ont été victimes de l'incrédulité. Leur cœur s'est endurci. Ils ont été victimes de l'incrédulité. Et je prie pour que ce ne soit pas pareil pour nous, pour chacun, chaque personne dans ce lieu. L'incrédulité, le fait de ne pas croire en Dieu. Le fait de ne pas croire en ses promesses. L'incrédulité est venue parce que, à l'inverse de Moïse, ils pensaient que Dieu ne les aimait pas en les faisant passer par le désert. Si tu veux que ta foi augmente, si tu veux une foi persévérante, sache que Dieu est bon. La foi doit être ancrée dans la bonté de Dieu. Même quand les circonstances semblent te mentir, fais-le confiance et crois qu'il veut te manifester sa bonté. Crois qu'il veut te manifester sa bonté. Soyez attentifs, frères et sœurs. Prie pour ces précieuses personnes-là. Dieu veut délivrer. L'ennemi est là pour détruire. Mais Jésus est là pour donner la vie. Et c'est ce que Dieu veut. La Bible dit dans Hébreux 11, 6, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Ne t'arrête pas à tes échecs. Ne t'arrête pas comme les disciples lorsqu'ils n'ont pas réussi à chasser le démon de cet enfant. Ne t'arrête pas là. Ne regarde pas ce que Dieu ne fait pas. Si tu regardes et tu nourris tes pensées avec ce que Dieu ne fait pas dans ta vie, tu nourris l'incrédulité. L'incrédulité veut t'emprisonner et te tuer et te rendre victime. Faire de toi une victime. t'empêcher d'arriver dans tes promesses. C'est pour ça qu'il est bon et qu'il est toujours bon de regarder la bonté de Dieu. Regarde ce que Dieu fait et non pas ce que Dieu ne fait pas. Sinon, le doute s'installera. Quand Jean-Baptiste était dans la prison, il commençait à baliser parce qu'il avait proclamé que Jésus libérait les captifs. Maintenant, il est captif et Jésus ne vient pas. Lui qui a déclaré, voici le Messie. Là, il commence à être la proie à l'incrédulité. Et il dit à ses disciples, allez lui demander si on doit l'attendre lui ou quelqu'un d'autre. Et Jésus dit, dites à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les boiteux marchent, les malades sont guéris, les morts ressuscitent. Heureux celui qui n'est pas une occasion de chute à cause de moi. Autrement dit, Jésus est en train de dire, heureux celui qui ne tombe pas dans l'incrédulité à cause de ce que je ne fais pas. Regarde ce que Dieu fait. Quand Dieu touche les gens comme ce soir, c'est un acte d'amour. Quand il délivre, quand il guérit, c'est le langage de l'amour de Dieu. Quand quelqu'un reçoit une prophétie, c'est le langage de l'amour de Dieu. Quand on reçoit une prophétie, Dieu veut donner l'espérance. Dieu veut exhorter, conforter. Dieu veut affermir. Quand quelqu'un reçoit la guérison, c'est parce que Dieu veut le délivrer des griffes de l'ennemi et de la maladie. Quand on reçoit une délivrance, c'est parce que Dieu veut enlever le joug de l'oppression démoniaque dans sa vie et installer la paix. C'est le langage de l'amour de Dieu. Quand son règne vient, Dieu manifeste son amour. Regarde à ce que Dieu fait et non pas ce que Dieu ne fait pas. Ne meurs pas dans le désert. Laisse-le fortifier ta foi. Car la foi, c'est ce qui nous fait triompher du monde. Et l'ennemi déteste ça. Persévère. Persévère. Dans la parole de Dieu, dans les évangiles, le nombre de fois où l'on voit que des hommes et des femmes ont une percée parce qu'ils ont persévéré. Cette femme qui perd du sang depuis 12 ans. 12 ans, elle perd du sang. Imagine, depuis 12 ans, tu es en train de chercher ta guérison. Tu vas de conférence en conférence. Personne. Mais elle n'a pas perdu espoir. Elle a persévéré. Elle a continué. C'est pas parce qu'on prie pour toi que ça ne marche pas qu'il faut que tu tombes dans l'incrédulité. En tout cas, je ne tomberai pas dans l'incrédulité. Je continuerai à prier tout le temps pour vous. Jusqu'à ce que cette femme, au bout de 12 ans, elle est impure parce qu'elle perd du sang. Et à l'époque, elle ne devait même pas être en public. Tout le monde devait s'éloigner d'elle parce qu'elle était impure. Et là, elle vient. Et si elle touchait quelqu'un, c'était pire. Elle rendait la personne impure. Et elle vient, et dans sa foi, elle brave toute la foule. Elle est courageuse. Elle n'a pas peur de lever la main pour dire « j'ai besoin d'être délivrée ». Elle traverse la foule. Elle est courageuse. Elle veut sa guérison. Elle persévère. Elle traverse la honte. Elle traverse la gêne. C'est ça la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ça la foi, et elle traverse. Et elle fait quelque chose qu'à l'époque, d'autres personnes n'ont pas encore fait. Et elle touche le bord de son vêtement. Parce qu'elle s'est dit en elle-même, si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et boum, Jésus dit, j'ai senti une force sortir au-dedans de moi. Et elle a reçu sa guérison. Il y a certaines situations qui nous demandent une plus grande mesure de foi. Et pour triompher de l'incrédulité, toi et moi, nous avons besoin de cette plus grande mesure de foi. Je disais à ma chère épouse aujourd'hui, je fais de ça mon combat. Parce que je sais que Dieu a plus. Je sais que Dieu est bon. Je sais que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Et qu'il est écrit que rien n'est impossible à celui qui croit. Rien. Rien. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien. Et quand j'ai des doutes là-dessus, ça signifie que j'ai de l'incrédulité quelque part. Alors ce soir, je vais juste t'encourager à comprendre que le royaume de Dieu est en toi. Si tu es en Jésus-Christ, que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. Et que toi et moi, nous avons reçu la foi. La foi est un cadeau. La foi ne peut pas se produire par nos propres efforts. La foi est un cadeau. La foi est un don. La foi est un présent. Dieu nous a donné la foi par la grâce. C'est pour ça que la foi, elle est issue de la grâce. La grâce est une manifestation de la bonté de Dieu. Si quelqu'un voit Dieu comme le juge, comme celui qui fouette, comme celui qui corrige, comme celui qui n'est pas content, comme celui qui est sévère, sa foi aura du mal à grandir. Parce que la foi est un présent. La foi est un cadeau. Et ce soir, j'invite tout le peuple de Dieu, chaque personne, à relever le défi pour sa propre vie, de confronter l'incrédulité comme jamais auparavant, de rejoindre un groupe de prière, mais de persévérer jusqu'à ce que vous avez une percée. Parce que c'est ce que Dieu veut pour vous et moi. Il nous a fait des promesses. Regarde ton voisin, dis-lui, ne laisse pas l'incrédulité t'empêcher d'entrer et de prendre possession de tes promesses. Regarde ton voisin, toujours dis-lui, ta foi, c'est ce qui triomphe de l'ennemi. Chéris-la, garde-la, préserve-la, c'est ton trésor. Amen.